Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la suite de ma lecture d'extrait du roman de Jérôme Aumont, Un empêchement, paru en août 2023 chez Christian Bourgois, éditeur. C'est un roman choral, trois parties. Nous sommes toujours dans la partie de Mathieu. Je sortais de réunion quand Laure m'a appelé sur mon téléphone portable. J'étais heureux de l'entendre. Elle aurait pu m'envoyer un simple SMS, mais elle avait fait le choix d'une vraie conversation. J'aurais aimé mériter l'amitié de cette fille, capable d'affronter son chagrin et l'inconfort de ma présence avec une telle détermination. J'ai beau vous en vouloir, je sais aussi à quel point Xavier vous aimait. Alors voilà. Sa mère m'a demandé si je voulais bien m'occuper du déménagement. Elle est perdue, la pauvre. Elle n'a pas mis les pieds à Paris depuis son voyage de noces. Elle n'a pas le permis de conduire. Personne pour l'aider. Je ne suis pas sûre qu'elle soit capable d'endurer une épreuve de plus. Trier les affaires de son fils, n'en parlons pas. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Elle ne savait pas comment me le demander. Xavier avait dû lui dire que j'avais un double des clés. Et j'ai pensé que ce serait peut-être bien que l'on fasse ça tous les deux. Enfin, c'est peut-être idiot. Non, ce n'était pas idiot. Oui, bien sûr, je serai là. J'étais d'autant plus touchée que cet appel avait dû lui coûter. Et elle m'offrait ça, la possibilité d'entrer une dernière fois dans ton appartement, même si c'était pour y affronter ton absence. Tant pis si elle faisait appel à moi pour d'autres raisons. Laure n'avait pas le permis et elle était toujours plus ou moins dans une mauvaise passe financière. Elle cherchait aussi et surtout un chauffeur prêt à payer la location et la caution d'un fourgon de déménagement, mais ça je m'en foutais. Oui, bien sûr, j'allais l'aider. Nous allions nous aider. Tu veux que l'on fasse ça quand? Ce week-end, ce serait bien. J'ai parlé au propriétaire de l'appartement ce matin. Il a été vraiment bien au téléphone. Il aimait beaucoup Xavier. Il vit dans l'immeuble, lui aussi, au troisième étage, je crois, peu importe. Ils discutaient souvent tous les deux. Il m'a dit que l'on pouvait prendre tout le temps nécessaire. Mais je crois que c'est mieux pour tout le monde si on fait ça au plus vite. Plus on attendra, plus ce sera douloureux. Pour moi, en tout cas. Pour moi aussi. Et je sais que c'est bête à dire, mais je suis contente de le faire avec toi. Tu crois que tu arriveras à me tutoyer un jour ? Je devrais pouvoir y arriver, mais ne t'attends pas à ce que je te tombe dans les bras. En raccrochant, impossible de ne pas me remémorer notre premier dîner tous les trois. Tu étais rayonnant, tellement heureux de voir ton petit monde enfin réuni. On s'est retrouvés dans un italien, en haut de la rue des Martyrs. Laure nous attendait, un verre de Negroni à la main, ce n'était pas le premier. Ta Cerbère était bien déterminée à comprendre ce que tu me trouvais, et dans le même temps, ce qui pouvait bien clocher chez moi. Je trouvais ça émouvant. Une vraie lionne. Pas agressive, mais elle ne laissait rien passer. Piquante, juste ce qu'il fallait. Ça va, Mathieu? Pas trop chaud? Pas trop compromettant comme endroit, hein? Un peu moins de lumière, peut-être? Garçon, vous pourriez réduire un peu l'intensité de l'éclairage pour monsieur, s'il vous plaît? Il n'assume pas très bien d'être vu avec mon meilleur ami, ici présent. Oui, le demi-dieu que vous voyez là, allez comprendre. Il nous faut définitivement nos trois Negroni pour commencer dignement ce dîner. Mon Xavier, tu ne dis rien, tu es avec nous? Et comment? Je ne suis même pas certain d'avoir faim. Vous avoir tous les deux pour moi, ça me nourrit. Je suis tellement heureux que vous vous rencontriez enfin. Ne te réjouis pas trop, mon grand, quand même. Je ne voudrais pas jouer ma Cassandre de service, mais... Je te rappelle que monsieur va ensuite aller gentiment se coucher aux côtés de sa légitime. Marie, c'est bien ça? Elle avait beau chercher à me déstabiliser à chaque instant, et elle y parvint un peu. Je n'ai pu m'empêcher d'éprouver une affection immédiate pour cette fille qui était prête à tout pour toi. Elle prenait sans cesse ta défense, ne laissait pas passer la moindre occasion de glorifier ton talent, ton goût si sûr, ton regard si doux, ta discrétion, ta patience. J'étais forcément le sale type, le monstre qui te condamnait à dormir seul, à ressasser ta solitude, comme on mâche un vieux chewing-gum à s'en échauffer les gencives, sans coller la migraine. Alors oui, malgré l'épreuve, malgré l'immense douleur, la retrouver en bas de ton immeuble pour vider ton appartement était une évidence. Il me manque tellement, j'ai tant rêvé de ce jour où nous viendrions ensemble vider cet appartement, mais pas pour tout emmener chez sa mère, pas sans lui, ou alors pour lui faire la surprise. Je ne pourrai jamais te pardonner ce qu'il a enduré par ta faute. Laure, s'il te plaît, ne me demande pas d'avoir cette conversation avec toi maintenant. C'est au-dessus de mes forces. Je me reprochais mot pour mot tous ses griefs. Qu'elle ne veuille pas entendre ma douleur, je pouvais le concevoir. Mais elle ne pouvait pas nier mon chagrin et faire comme si elle était la seule à t'avoir perdu. Nous allions vider cet appartement. Nous allions transpirer, pleurer et peut-être même sourire. Il nous fallait garder nos forces. Au moment où j'actionnais le haillon de la camionnette de location, c'est sans rancœur mais sans un regard que Laure m'a annoncé que c'était tout pour elle. Elle me laissait me charger du reste. Elle n'irait pas jouer la comédie devant ta mère. Je n'avais qu'à aller dormir quelques heures dans un hôtel de banlieue, comme bon me semblait, puis prendre la route de la Normandie. Celle que j'aurais dû emprunter avec toi pour aller déguster un des bons petits plats en sauce de ma future belle-mère par un beau dimanche de mai. Elle en a profité pour me dire que je ne faisais que lui rappeler à quel point j'avais foutu ta vie en l'air. Elle ne voulait plus jamais me revoir. J'ai acquiescé en silence. Je nous ai souhaité de trouver la paix. La perspective de me retrouver face à ta mère me retournait le cœur. J'avais si peur de te revoir en elle, de déceler une quelconque ressemblance, de m'effondrer et confesser trop tard qui j'étais. Mais je n'avais pas le choix. Il me fallait avaler ces 200 kilomètres de bitume pour affronter son visage. J'ai regardé Laure s'éloigner dans le rétroviseur. J'ai démarré tant bien que mal le moteur de ce fourgon blanc au ventre gonflé de meubles et de cartons. Le vieil autoradio s'est mis en branle, captant je ne sais quelle station FM, jugeant bon de cracher ces mots de Murat.
Il faut aimer, s'évader, troubler la onde, choyer l'âme vagabonde qui sait montrer le chemin. Que le corps vivant ce monde vive heureux chaque seconde comme un amant ruisselant. As-tu aimé chanter? Aime-moi. As-tu aimé que se referment ses bras? As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être heureux? As-tu aimé t'enfuir loin parfois? As-tu aimé retrouver tes pas? Oui, saurais-tu souffrir à l'intérieur d'un être heureux? Prendre le train bleu des songes, contourner la grande éponge, éviter le malin. Il faut aimer, attiser les feux de joie qu'allumera pour toi le stratège bienveillant. Se referme, c'est moi. As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être brun? As-tu aimé en morte saison semer la graine fleur qui pousse au cœur des gens heureux? Plier ta nature féconde, aimer que se trouble l'onde au plongeon du requin blanc. As-tu aimé nu sous les lambris du monde la cariatide blonde? Le navire est peuronné. Dis, as-tu aimé chanter? Aime-moi, as-tu aimé que se referment ses bras? As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être heureux? As-tu aimé en mort saison semer la graine fleur qui pousse au cœur des gens heureux?
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
J'ai sorti de ma poche le flacon d'eau sauvage que j'y avais glissé quelques heures plus tôt sans que l'or s'en aperçoive. J'en ai humé l'alcool, puis on a imbibé les sièges qui puaient la sueur et le tabac froid. La procession pouvait débuter. J'ai filé en direction de Porte-Maillot. Les artères étaient désertes à cette heure-ci, au volant de mon corbillard blanc de location. En sortant de la station-service où je m'étais ravitaillé sans conviction d'un sandwich triangle, la couleur du camion de location m'a soudain sauté aux yeux, comme un amer rappel à l'ordre. Pour la seconde fois, le destin me mettait au volant d'un véhicule blanc pour me signifier ma prédisposition au malheur et au deuil. Comble de l'ironie, tu as toujours détesté le blanc, pantalon, drap, mobilier, voilage. Il n'y avait guère que les pivoines et les renoncules blanches qui trouvaient grâce à tes yeux, si possible rehaussés d'une pointe de rose. Tu enfleurissais ton appartement chaque fois que nous y passions le week-end. Et puis bien sûr, les nappes et les serviettes blanches et parfaitement abidonnées de ce restaurant du 7e arrondissement, nous dînions parfois, les soirs de semaine, avant de dérober une nuit à mon contrat d'homme marié. Tu dors avec moi ce soir ? Oui, mon homme, je suis tout à toi. Marie est à Londres jusqu'à demain. Tu n'as pas remarqué mon petit baluchon ? Si, mais comme tu n'as rien dit. Je voulais te faire la surprise. C'est bête, je sais. Mais ces félicités passagères te renvoyaient autant au plaisir de l'instant qu'à la pleine conscience de leur péremption. Et comment ne pas te comprendre ? Comment ai-je pu ainsi t'imposer ma présence quand cela m'arrangeait, pour mieux t'en priver le reste du temps? Est-ce ma lâcheté et cette inconstance qui t'ont tué? Est-ce mon égoïsme qui a fini par te lasser, t'a fait lâcher prise dans ce virage bas-normand. Au volant de mon corbillard blanc sur cette autoroute pluvieuse et rectiligne, je ne peux m'empêcher de ressasser l'inconcevable. Tes mains qui renoncent, ton regard qui se détourne, ton corps tout entier qui peut-être marque ce temps suffisant et le contrôle de ta belle anglaise qui t'échappe. Les mains agrippées à ce cylindre de plastique gainé de scaille noire, je peine à ne pas défier le décor à mon tour. Je peine à réfréner l'envie de te rejoindre. Mais non, pas comme ça, pas maintenant. Singer l'horreur de ta perte serait le pire des hommages. Une infâme parodie. Toutes ces âneries de vie après la mort, d'amants qui finissent forcément par se retrouver dans l'au-delà sur fond de Max Richter, même ma fille n'y croit plus depuis le collège. Et puis la seule idée de tes livres et de tes slips en vrac sur l'autoroute A13, ta vie souillée une seconde fois sur l'asphalte noir, le fait divers à répétition, l'ombre d'une malédiction, tu ne mérites vraiment pas ça. Et ta mère non plus, qui attend la scabreuse livraison et son improbable chauffeur.
Vime un dessin genu, dégringole l'abîme. Vime rose trémière, allumer un grand feu. Nous nous aimions tant comme on s'aimait, Miette. Nous nous aimions tant, il faut nous séparer. Encombrions de fleurs les temps noirs de vos songes. Venions fouiller la nuit la vase des marais. Nous nous aimions tant comme on s'aimait, Miette. Nous nous aimions tant, il faut nous séparer. Oh, voilà l'instant cruel, l'amour au monde aimé. Déjà siffle déjà la lame du bourreau. Nous nous aimions tant comme on s'aimait, Miette. Nous nous aimions tant, il faut nous séparer. Il faut nous séparer.
Il faut nous...
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
J'ai passé la nuit sur une aire d'autoroute, près de Rouen. Impossible d'affronter la solitude d'une chambre d'hôtel. La télé pendue au mur, les conversations à travers la cloison, les familles dans la salle du petit déjeuner. Que va-t-elle penser de moi qui débarque au petit matin avec ma cargaison de souvenirs et ma mine défaite? Laure l'a-t-elle seulement prévenue? Sait-elle que c'est moi qui vais sonner à sa porte dans quelques heures, dans ma chemise au relent de transpiration et d'eau sauvage? Moi qui aurais dû me tenir à ses côtés quelques semaines plus tôt, affrontant ton cercueil perché sur ses maigres tréteaux de sapin, cet autel que j'avais fait recouvrir de roses blanches, et le regard du curé qui ne savait trop qui plaindre, cet enfant volé à sa mère, cette mère à qui la vie n'aura décidément rien épargné, ni les kilos en trop, ni cette église trop grande pour vos deux carnets d'adresses réunis, ni les deuils empilés les uns sur les autres. Tu craignais le jour où il te faudrait affronter la vision de ta mère dans son cercueil. La vie t'a épargné ce spectacle pour mieux l'imposer à celle qui pensait avoir tout enduré, mais n'était qu'à l'aube d'un chagrin qui ne la quittera plus. Ta pauvre mère, comme tu l'appelais. Ta mère qui s'inquiétait de te savoir différent, dans cette ville dont les rues façonnées par l'intolérance abîment tous ceux qui sortent un peu trop du rang. Ta mère qui n'en dormait plus lorsqu'elle t'imaginait tard dans les rues, avec tes manières un peu trop délicates. Saurais-tu seulement te défendre si tu te retrouvais nez à nez avec des voyous, qui, non content de t'arracher ta montre ou ton portefeuille, prendraient aussi un malin plaisir à te défigurer? Ta vulnérabilité, c'est bien la seule chose qu'elle avait à te reprocher. Quand toi, tu t'inquiétais de son taux de cholestérol. Tu ne parlais pas souvent de ta mère, hormis pour moquer ses petits travers, surjouer l'enfant prodigue et désinvolte. C'est moins douloureux et plus confortable que de regarder sa solitude en face. Mais tu l'appelais presque tous les soirs, souvent pour l'engueuler, savoir ce qu'elle avait mangé, qui elle avait vu. C'était ta manière de lui demander comment elle allait. Tu te reprochais de l'avoir abandonnée entre ces quatre murs qui seraient bientôt quatre planches. Elle ne faisait rien pour épargner ta culpabilité, elle avait bien trop peur que tu n'oublies de l'appeler le lendemain. Tu la couvrais de cadeaux chaque fois que tu allais la voir, comme si son chagrin allait se laisser endormir par un plaid ou enivrer par un extrait de parfum. Tu crois à l'hérédité, toi? Tu crois que l'on est encombré de l'histoire de ses parents? Ou que tout est à construire? L'intrigue, les personnages, le dénouement? Une part de moi croit dur comme fer que l'on est toujours seul face à ce que la vie a à nous offrir et à nous prendre, que l'on est condamné à tracer une route médiane entre celui que l'on pense être et les chemins de traverse que l'on découvre à mesure que l'on avance. Et une autre part de moi est persuadée que, pour connaître vraiment quelqu'un, on ne peut négliger l'enfant qu'il a été, ses peurs, ses doutes, ses rêves. Tu ne sauras jamais à quel point je t'aime, mon Xavier, ni ce que j'aimais par-dessus tout chez toi, ce qui te rendait si essentiel et si précieux. En t'observant, j'avais souvent l'impression de voir deux versions de toi se superposer. Cet enfant, un peu apeuré, qui défiait la vie comme il pouvait, qui la jaugeait, la regardait s'étaler à ses pieds et ne savait quoi en faire et dans quel sens la prendre, mais qui pressentait que la matière était belle. Et puis l'homme que tu étais devenu, affirmé, déterminé, avec pourtant dans le regard ce doute, ce voile d'inquiétude. Et tu commences à le connaître un peu, ce gamin que j'ai été, tu le vois? Bien sûr que je le vois. Je voudrais le rassurer, lui parler de l'homme merveilleux qu'il va devenir. Mais c'est à moi de panser mes plaies tout seul, je le sais. Je ne peux pas attendre de toi que tu me sauves. J'étais sur le point de nous sauver, mon Xavier. J'allais enfin tout dire à Marie, te rejoindre, tout m'avouer aussi. Les pages ne demandaient qu'à se noircir de notre histoire, de nos projets, de nos rêves, de nos envies enfin assumées. Je croyais n'avoir jamais été aussi près de ma vie. Elle ne m'a jamais semblé si hors de portée, alors que j'emprunte la bretelle de sortie qui me rapproche de ce garage humide où, avec ta mère, un voisin peut-être, nous empilerons tes affaires, les ensevelirons dans leur carton double cannelure. Et puis, une fois la lumière éteinte et la porte du garage refermée, ta mère me proposera de l'accompagner jusqu'au cimetière où le tailleur de pierre n'aura pas encore eu le temps de graver ton nom sur la stèle en granit du caveau familial. Comme seule une mère sait d'autorité quel geste s'impose et soulage, elle avancera sans mollir, collée à moi, le regard masqué par ses lunettes au vert fumé par les ultraviolets. Elle saura tout, parce que les mères sont comme ça. Peut-être aussi parce que j'ai le visage ravagé, me diras-tu, mais pas seulement. En poussant le portillon qui ouvre sur les allées gravillonnées du cimetière, elle me dira simplement « Comme ça, la prochaine fois, vous saurez où le trouver ?» On se recueillera longuement sur ta tombe, je prendrai sur moi de ne pas m'effondrer et elle m'en sera reconnaissante. C'était Un empêchement de Jérôme Aumont. Lors des pauses musicales, nous avons entendu deux chansons de Jean-Louis Murat. La première, Aimer, extraite de l'album Dolores. La seconde, Nous nous aimions tant, de l'album Murat Gostang. Cette émission était produite par Frédéric Guyon. Vous pourrez écouter la suite de ce roman dans une prochaine émission. Je vous souhaite une bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.